déjà entendu d'une certaine manière et tout ça, mais c'est quelque chose qui a été réutilisé de différentes manières. Et par exemple, je prends un exemple, Guillaume nous en avait parlé la dernière fois, c'est les petits bracelets qui s'appellent The Four, donc les quatre, voilà. Et en fait, ça a été utilisé vraiment, vraiment de différentes manières. J'avais fait tout un truc détaillé, puis à la fin, je me suis rendu compte que c'était trop long ce que j'allais dire, donc j'ai tout enlevé, mais si vous voulez, lors de l'atelier, on pourra en discuter. Voilà, de ces quatre grands principes-là. Alors voilà, c'est bon, tout est dit, hein, on peut rentrer chez nous. Mais en fait, au final, je me suis dit par rapport à cette réflexion-là, mais c'est bizarre, parce que finalement, dans l'Évangile, quand on lit les histoires de Jésus, il y a certaines situations qui nous mettent un peu en décalage. Je prends un exemple, c'est la rencontre de Jésus avec Zachée. C'est un texte qu'on trouve dans Luc 19, et où il nous est dit que donc Zachée veut voir Jésus, et Jésus s'arrête face à Zachée, et on lit donc dans Luc 19, à partir du verset 6, que Zachée s'empresse de descendre, puisqu'il était sur un arbre, et il accueille Jésus avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Donc là, on retrouve la dimension du péché. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je reconnais que tu as un plan merveilleux pour moi et que je t'aime, et que tu m'aimes. » Non, c'est pas ça. « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Le salut. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et là, on est un peu, waouh, attends, moi je pensais que le salut, il entrait à partir du moment où on acceptait Jésus dans son cœur. Je croyais qu'il fallait faire la prière du pécheur en disant je reconnais que je confesse mes péchés et qu'après Jésus me donne le salut et la vie éternelle. Et là, Zachée, lui, il fait ça avec de l'argent. Alors en fait, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ça montre qu'en fait, au final, il y a quelque chose probablement de bien plus profond par rapport à ces principes-là. On va essayer de développer un petit peu et d'éclairer les choses. Peut-être que les quatre lois spirituelles, elles ne décrivent pas toutes les situations de conversion, de repentance. Et peut-être que le salut et l'évangélisation, ce n'est pas juste une question de dire « Il faut qu'à la fin d'une conversation, la personne, lors de notre rencontre, elle ait dit « J'accepte Jésus dans mon cœur » et j'accepte d'avoir la vie éternelle, et maintenant j'ai ma place au paradis. » Peut-être que ce n'est pas juste ça, l'évangélisation. Et peut-être que l'évangélisation et le partage de l'évangile, ça va au-delà de ça. Et pour réfléchir à ces questions-là, je vous propose de prendre un texte de base en écho à celui de Matthieu 28. Matthieu 28, vous vous rappelez, c'est ce passage où du coup Jésus va partir et il laisse ce dernier envoi. Et en fait, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'on peut rester au même endroit, dans la même situation, mais prendre un autre angle de vue, c'est celui de Luc. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. S'il y en a qui ont une YouVersion ou une Bible papier, vous pouvez l'ouvrir dans, non pas l'évangile de Luc, dans Acte 1. Dans Acte 1, à partir du verset 1, justement, donc c'est le tout début. En fait, Luc, il a fait le choix de décrire, donc il n'a pas connu Jésus en chair et en os, mais il a écouté des témoignages, il les a compilés, et il a décidé d'écrire deux livres, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et il a fait ça pour instruire un disciple, un gars, qui s'appelle Théophile. On ne connaît pas trop ce qu'il en est de ce Théophile-là, mais voilà ce qu'il nous dit. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc là, il dit, réfère-toi à l'évangile de Luc, autrement dit, parce que dans mon premier livre, c'est là où je raconte toute la vie de Jésus. Et je m'arrête à jusqu'il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres, donc allez, faites de toutes les nations des disciples et tout ça, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous imaginez la scène, je trouve que c'est visuellement, c'est parlant. Jésus, il est ressuscité. C'est le Jésus qui est en gloire. Et il décide encore de rester 40 jours à enseigner ses disciples. Et ça va être une sorte de concentré de tout ce qu'il leur a enseigné pendant les 3 dernières années. Et il va reprendre ça. C'est une sorte de masterclass, une sorte de cours intensif pendant 40 jours où il va reprendre tous les fondamentaux de qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il garde pour être sûr que le message soit fiable pour la suite. J'imagine, il devait se dire, bon, ça je dis, ça je dis pas, qu'est-ce que je fais ? En tant qu'enseignant, on se pose souvent ce genre de questions-là. Et en fait, lui, ce que Jésus garde, c'est ce que Luc nous dit, le royaume de Dieu. En fait, tout le message, Luc nous dit, tout le message de Jésus se concentre dans un concept, dans une réalité, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu pour Jésus, c'est l'idée de dire qu'il y a une nouvelle manière de vivre aujourd'hui et maintenant. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour expérimenter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'endroit où on va quand on meurt et Jésus nous dit comment est-ce qu'on fait pour y aller. C'est cette nouvelle façon de voir les choses et de vivre les choses dès aujourd'hui et dès maintenant. Ça s'étend dans l'éternité, mais ça commence dès aujourd'hui, ici et maintenant. Et dans ce royaume, il y a un roi. Il y a une allégeance à ce roi qui fait partie de ça. C'est le principe d'un royaume. C'est un endroit où la volonté du roi prévaut sur toutes les autres volontés. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Et quand on prie et qu'on dit que ton règne vienne, en fait, règne et royaume, c'est le même mot. Sauf que du coup, il va y avoir des dimensions différentes. Souvent, on dit que le règne, c'est plutôt temporel, le royaume, c'est plutôt spatial. En réalité, les deux sont très proches. Et on prie dans le Notre Père, que ton royaume vienne sur la terre. Et quand on dit ça, on dit que ça passe par moi, en fait. Et donc, on a la responsabilité, d'une certaine manière, de faire advenir ce royaume et aussi de le partager, de le représenter, un peu comme si on était des ambassadeurs de ce royaume. En fait, c'est une image qui est reprise par l'apôtre Paul, un peu comme si on était dans une culture étrangère, et nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume, par les valeurs que l'on vit, on représente ce royaume dans le monde. Et on poursuit au verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Les apôtres, ils sont toujours intéressants, dans leur réaction, dans leur manière de réagir. Et en fait, là, c'est là où on se rend compte qu'en fait, les apôtres, ils n'ont pas compris grand-chose de ce royaume que Jésus veut instaurer. Parce qu'en substance, ils disent « Ok, Jésus, t'es venu pour le salut pour tous les êtres humains, t'es venu pour la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Mais et nous, notre peuple, Israël, notre culture, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va y gagner finalement à tout ce truc-là ? Il est où mon intérêt là-dedans ? » Et on peut être prompt à juger, mais je pense qu'on doit aussi se regarder, et je dois me regarder aussi, en me disant, au final, est-ce que parfois je ne réduis pas l'évangile à, au final, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, en fait ? Et moi, comment je grandis spirituellement dans ma foi ? Comment je vais en apprendre plus sur Dieu ? Et qu'on oublie cette grande vision du royaume de Dieu que Jésus a. Et je pense aussi qu'on oublie une partie de l'appel que Jésus nous lance. Cet appel, par exemple, on le retrouve dans Matthieu 16. C'est une phrase forte. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si tu veux être mon disciple, d'abord, tu renonces à toi. En fait, le but de l'évangile, ce n'est pas un développement personnel, avant tout. Ce n'est pas mon bien-être personnel, avant tout. Mais en fait, c'est cette grande vision qui fait qu'on a le privilège d'intégrer un projet qui me dépasse, qui nous dépasse, ce royaume de Dieu, et auquel il se trouve que je suis contribué à ma toute petite échelle, je suis invité à contribuer à ma toute petite échelle. Je peux apporter ma pierre à l'édifice de ce grand royaume-là. Il y a un théologien qui s'appelle Stanley Auerwas qui décrit les choses de cette manière-là. Je trouve que l'image est parlante. recevoir le baptême, c'est-à-dire rentrer dans cette dynamique du royaume de Dieu, revient à sauter dans un train en marche. Il ne s'agit pas tant d'adhérer à un credo, mais bien plutôt de rejoindre une aventure qui a commencé longtemps avant nous et qui continuera longtemps après nous. Est-ce qu'on saute dans ce train en marche ? Est-ce qu'on y prend notre part, mais en gardant toujours cette perspective que ça nous dépasse totalement ? Et donc finalement, la question de base du disciple, c'est pas qu'est-ce que Jésus peut m'apporter à moi personnellement, dans ma vie pour que je grandisse. La question, c'est comment est-ce que je peux contribuer à ce grand projet que Dieu a inauguré il y a 2000 ans et qui continue encore aujourd'hui et qui va encore jusque dans l'éternité, mais dans lequel j'ai le privilège, ça s'appelle la grâce, j'ai la grâce de participer à ma toute petite échelle en incarnant et en imitant Jésus-Christ dans ma vie. C'est ce qu'on prie quand on dit « que ton règne vienne sur la terre ». On poursuit notre texte encore. Jésus leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc il leur dit, autrement dit, je ne vous donne pas de réponse en fait par rapport à qu'est-ce que devient Israël. Ça peut être instructif comme réponse d'ailleurs. Mais, voilà ce que vous devez garder, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais m'arrêter sur deux expressions. Et la première, c'est « vous serez mes témoins ». Nous sommes les témoins de Jésus, de la personne de Jésus. Et ça nous oriente un peu dans notre manière d'évangéliser. Parce qu'en fait, partager l'évangile, du coup, ça ne devient pas juste une conversation sur Dieu en général. Est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce que tu ne crois pas en Dieu ? Ou alors sur la Bible en général. Ah, tel passage et tout ça. Non, ça devient une conversation qui est focalisée sur Christ, sur la personne de Jésus. Et si on ne parle pas de Jésus-Christ dans une conversation, alors on n'est pas témoin de Jésus, en fait, d'une certaine manière. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment de l'évangélisation ? Mais vous serez mes témoins, les témoins de Jésus-Christ. Et c'est intéressant aussi, c'est mes témoins, et il y a le mot témoin aussi, qui est vraiment un mot très intéressant par rapport à ça. En fait, c'est exactement le mot qu'on utilise au tribunal, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'un témoin, on attend avant tout qu'il témoigne. C'est aussi simple que ça. Si tu es témoin, tu témoignes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu parles de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as expérimenté. Devant la loi, le témoin, il n'a pas la responsabilité d'argumenter. Il n'a pas la responsabilité de faire pencher la balance d'une manière ou d'une autre en défendant l'affaire en justice. Ça, c'est l'avocat qui fait ça. Il n'a pas non plus la responsabilité de juger. Jésus n'a pas dit « vous serez mes juges » pour avoir une vision globale et pour décider qui va en enfer, qui va au paradis. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ou vous serez mes avocats pour défendre. Non, ça, ce n'est pas notre rôle non plus. C'est le rôle du Saint-Esprit. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient à la barre, qui dit, voilà, moi, je sais ça, j'ai vu ça, j'ai expérimenté ça. Dans ma vie, voilà comment je suis travaillé, voilà comment je comprends les choses. Et peut-être les gens vont dire, oui, oui, mais ça et ça, oui, mais si Dieu existe, pourquoi le mal et tout ça ? Eh bien, en fait, le témoin, il a la liberté de dire, ben, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est voilà ce que j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai vécu. Et ça, je trouve, c'est profondément libérateur, en fait, que Dieu utilise, que dans la Bible, il y ait ce mot de témoin, en fait. Parce qu'en fait, ça enlève toute la pression, en fait. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, ou d'argumenter, ou de débattre, ou d'être sûr qu'à la fin, la personne, elle se soumette à nos idées, à nous. On a juste besoin, et on n'a pas besoin non plus d'avoir toutes les réponses. Dieu ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses, mais par contre, il nous demande d'être témoin là où on est, c'est-à-dire de parler de ce qu'on a vécu, de ce que l'on vit aussi, et de la manière dont ça touche notre vie et dont ça nous affecte. Et on se dit, oui, mais là, du coup, ces responsabilités étaient trop grandes. Et du coup, là, c'est là où ça intervient. Jésus va plus loin et il dit, mais vous recevrez une puissance. Une puissance. En grec, le mot, c'est dynamis. Dynamis, d'où nous tenons le mot dynamite. Vous avez en vous une puissance, quelque chose qui est capable de faire exploser les choses. Dans le bon sens du terme, je pense. Alors souvent, quand on lit ça, on se dit, waouh, cette puissance-là, cet écho que ça prend et tout ça, waouh, je l'ai en moi et tout ça. Je ne sais pas comment vous le représentez. Moi, souvent, je me le suis imaginé de différentes manières. Par exemple, je me disais peut-être qu'en fait, j'étais en train de me transformer avec cette puissance que j'ai en moi. Waouh, purée, ça me régénère, ça me travaille. Tout ça. Alors ça, c'est plutôt une référence aux personnes qui ont grandi dans les années 90. Voilà. Donc, voilà, j'en fais partie, hein. Ou alors éventuellement comme si c'était j'ai la capacité de faire des tours de magie ou des choses comme ça, c'est ça la puissance que Dieu me donne. Et on peut avoir ce rapport là aussi, on a vu qu'il y a ces manifestations du Saint-Esprit dans nos vies mais aussi dans l'histoire de l'Église, et on se dit il peut y avoir ces manifestations extraordinaires qui sont liées à la présence du Saint-Esprit. Mais quand on lit notre texte ce matin, le premier effet de l'action de cette puissance-là, c'est quoi? Vous recevez la puissance et qu'est-ce qui se passe après? Vous accomplissez des choses extraordinaires? Non, c'est vous recevez cette puissance et le premier effet que ça a sur nous, c'est qu'on devient passionné pour Jésus, on a envie de parler de lui. On devient gaga pour Jésus, on a envie de parler de lui. C'est ça le premier effet du Saint-Esprit dans nos vies. Avec tous ces éléments-là en arrière-plan, je vous propose de réfléchir à trois aspects, avant de conclure, sur finalement, mais du coup, qu'est-ce que ça change et comment est-ce que ça oriente notre manière de partager l'évangile, d'évangéliser. Et la première de ces pistes, ce serait de parler d'une évangélisation qui est basée sur le discipulat. Une évangélisation basée sur le discipulat et pas sur la décision. Je crois que je l'ai rajouté derrière. Pendant des années, je l'ai dit au début, pendant des années, on a partagé l'évangile comme une décision à prendre. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as pris cette décision-là? C'est ce que faisait l'évangélisation de croisade, c'est ce qu'on a appelé l'évangélisation de croisade. C'est je réunis plein de gens dans un stade et en fait, mon objectif, c'est de leur faire prendre une décision. Et il y a des millions de personnes qui ont été touchées par l'évangile, et il y a des serviteurs qui ont été fidèles au travers de ce service-là. Et ça continue d'être un moyen significatif pour répandre l'évangile. Et on se dit aussi, mais ouais, et en plus c'est efficace, des millions de personnes qui ont été touchées. Et en fait, j'ai fait des petites recherches, et il se trouve que dans une interview des années 90, Billy Graham, qui fait quand même un peu partie des personnes figures de ce mouvement-là, en fait, il a déclaré qu'il croyait que seulement 25% des personnes qui étaient venues à ces événements-là et qui s'étaient engagées avec Jésus avaient vu leur vie transformée à l'issue de ces rencontres-là. Finalement, la question de se dire « je deviens chrétien juste parce que j'ai pris une décision un jour et après ça ne change rien pour le reste de ma vie », en fait, ça questionne sur le sens de l'évangile. Par exemple, Zachée, lui, il a réussi à trouver la capacité de se dire « comment est-ce que l'évangile touche ma vie ?» En fait, c'est dans la répartition des biens. Si ça intéresse les uns et les autres, en fait, il a mis en œuvre un jubilé. C'est ce qu'il a fait. Il a dit « je donne mes biens » un peu à la manière de ce que Dieu demandait au peuple d'Israël. Il y a même des études qui ont été un peu plus critiques, hein. Ces dernières années, il y en a qui ont montré qui ont évalué au fait que seulement 6% des personnes qui avaient assisté à ces congrès-là, au bout d'un an, avaient été différentes dans leurs croyances et dans leur comportement à l'issue de ces rencontres-là. Seulement une personne sur 20. Alors ça fait déjà beaucoup de monde et c'est super. Et donc c'est un moyen aussi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas en rester à la question de la décision, mais aussi où on passe à la question du discipulat, c'est-à-dire de comment est-ce que Jésus m'appelle jour après jour à vivre ma vie fidèlement en le suivant. La deuxième dimension, je pense, qui est importante aussi dans l'évangélisation communautaire, c'est cette dimension communautaire. Et là, ce qui est très important, en fait, c'est de se rappeler ce grand projet de Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit ? Il a dit, en fait, vous pouvez tout résumer à le royaume de Dieu, dans lequel tu apportes ta petite pierre à l'édifice, tu contribues à ton niveau. Et donc, je pense qu'on ne doit jamais oublier, en fait, que le partage de l'évangile, c'est jamais un acte solitaire. On n'est jamais tout seul, la seule personne unique qui va avoir cette responsabilité et cette pression de dire, si moi je ne convertis pas cette personne-là, d'ailleurs, est-ce que c'est nous qui convertissons, c'est la question, mais je ne pense pas que ça le soit, moi. Mais si jamais ce n'est pas moi qui convertis cette personne, peut-être qu'elle ne rencontrera jamais plus Dieu. Je pense que ce n'est pas... pour être tout à fait honnête, il y a toujours un cheminement et un parcours par rapport à ces rencontres-là. Et il y a quelques années de ça, dans l'église, il y a une personne, pour ne pas la nommer, c'est Choui, qui m'avait partagé une image. C'est l'image du collier de perles. En fait, dans ce processus et ce cheminement qui amène vers la décision de s'engager avec Dieu, en fait, il y a différentes personnes qui vont intervenir dans la vie de la personne. Et c'est un peu comme si chaque personne enfilait, si on le voit, un collier de perles. Alors les perles sont différentes parce qu'il y a des grosses perles, des petites perles et tout ça. Et la question qui se pose, c'est et qui mettra la dernière pour que le collier soit complet ? Et en fait, on s'en fiche qui met la dernière. Parce que s'il n'y avait pas eu les autres avant, en fait, la dernière, elle aurait servi à rien, ça aurait été juste la première. Je trouve que c'est une belle image pour se dire, en fait, le partage de l'évangile, c'est un partage qui se fait ensemble. Et ça commence dès le plus jeune âge, par des personnes qui nous marquent dans nos vies, par nos parents, par nos frères et sœurs, par des figures qui sont fortes pour nous et qui après évoluent dans le temps aussi. Et ça permet aussi de se dire, en fait, quand je partage l'évangile, je peux garder aussi cette dimension globale communautaire. Par exemple, je trouve que les événements comme Vie dans la ville, où là on peut vraiment, non pas simplement juste être une personne là où Dieu nous place, mais aussi de manière globale, tous ensemble, à témoigner de l'évangile et à partager l'évangile, c'est un super mode d'évangélisation, où on peut incarner tous ensemble le message de solidarité et de fraternité qu'est l'évangile. Et la dernière dimension, avant qu'on conclue, c'est une démarche dont j'ai entendu parler et qui me semble importante. C'est celle de l'évangélisation repentante. Je m'explique. Ça signifie qu'en fait, quand on est en relation avec un non-chrétien, on est plus prompt à confesser nos péchés qu'à demander de confesser les leurs. Parce qu'on a beaucoup à se faire pardonner en tant qu'Église, et on a beaucoup à se faire repentir aussi. Et parfois, c'est l'occasion aussi de reconnaître les défaillances de l'Église dans ce domaine-là, alors ça peut être dans l'évangélisation ou dans d'autres choses, plutôt que d'essayer de défendre coûte que coûte la manière dont l'Église a partagé l'Évangile. J'aimerais vous raconter juste une histoire, juste pour illustrer ça. C'est l'histoire d'un grand roi chrétien qui s'appelle Charlemagne. Charlemagne, il a christianisé l'Europe aux alentours du 8e siècle, et les archives rapportent que lors de ses conquêtes pour évangéliser les Saxons, donc c'est un peuple païen du nord-est de l'Europe. Il les a combattus pendant 30 ans, mais l'alternative qu'il leur proposait, c'était soit tu te convertis au christianisme, soit je te tue. Je ne sais pas si on voit bien cette image, en fait, mais on voit en fait Charlemagne sur son cheval, et en fait on voit les barbares qui sont agenouillés face à lui. Et il y a un événement historique qui s'appelle le massacre de Verdun, où on dit que 4500 Saxons ont perdu la vie en une journée à cause de ça. Convertis-toi ou meurs. Ça, c'est le message transmis par le christianisme pendant des siècles. Et je n'ai pas parlé de l'Inquisition, des croisades et tout ça, hein. D'ailleurs, en parlant de croisades, je suis toujours surpris pourquoi est-ce qu'on appelle ces campagnes d'évangélisation des croisades. Je me dis, c'est tellement une image... Qui a pas de sens. En fait, les gens, quand ils voient ça, ils doivent se dire une croisade, mais moi, j'ai pas envie d'entrer en croisade. Alors franchement, en fait, moi, dans mon attitude, je me dis, mais si je rencontre quelqu'un où je parle de l'évangile et que cette personne-là, en fait, elle me parle de la violence de l'Église, de l'intolérance de l'Église, du jugement qu'elle a subi quand elle est rentrée dans une église ou du manque d'accueil qu'elle a subi, moi, franchement, je ne veux pas me cacher derrière des débats ou des arguments. Je veux être le premier à dire, en fait, mais t'as raison, en fait, l'église, elle n'est pas parfaite. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils ont besoin de l'évangile aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'évangile autant que les non-chrétiens. Et ça, ça change notre attitude, parce qu'en fait, on ne vient pas comme celui qui apporte la vérité à ceux qui demeurent dans les ténèbres. On ne vient pas comme quelqu'un qui va dire « J'ai la lumière, toi tu es dans les ténèbres. J'ai la vérité, toi tu es dans le mensonge. Je suis sauvé, toi tu vas en enfer. » Mais je viens comme quelqu'un qui a besoin de transformation, de repentance, et je vis dans ce processus de conversion et de transformation continuellement, en fait. Et du coup, je dis à l'autre, tu vois, moi, j'ai des questions, j'ai des réflexions. Est-ce que ça te dit de m'accompagner dans ce processus-là? Voilà ce que j'apprends, voilà comment le Seigneur me met au défi dans des parties de la vie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et on marche tous vers la repentance. Et je trouve que dans cette attitude-là, le plus beau, en fait, c'est qu'en fait, quand on a cette attitude-là, en fait, on incarne la démarche dans laquelle on a envie de les inviter à vivre. On incarne la démarche à laquelle l'Évangile les appelle, c'est-à-dire la démarche de se convertir, de se repentir. En fait, on leur donne un exemple pratique. On leur montre que l'Évangile, ce n'est pas juste un message qu'on a accepté une fois dans notre vie et puis après, on vit notre vie comme on veut, mais c'est ce message qui nous transforme continuellement, jour après jour, dans cette vie de disciple. Quelqu'un disait, on ne devrait jamais voir l'Évangile dans son rétroviseur. C'est jamais une décision passée, c'est toujours quelque chose dont on a besoin aujourd'hui pour transformer notre manière de voir et de vivre les choses. L'Évangile, c'est le meilleur message pour marcher en nouveauté de vie, et on doit y revenir encore et encore et encore. Voilà. Je vous propose, dans 2 minutes, de prendre un petit temps en groupe, donc peut-être juste avec 2, 3, 4 personnes autour de vous, ou à deux, ou enfin à vous de voir, et peut-être de se poser 2 questions. On l'a dit, l'objectif, ce n'est pas juste d'être des personnes passives, et ce n'est pas évident, parce que le culte du dimanche matin, ce n'est pas forcément évident, mais c'est de se dire, en fait, et moi, comment ça me concerne? Qu'est-ce qui m'a interpellé dans le texte du jour? Et qu'est-ce que ça met en mouvement en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et donc, on prendra ce petit temps après. Et avant ça, je vous propose une conclusion. Cette conclusion, en fait, elle fait partie de notre passage. Je vous donnerai une puissance, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Est-ce que tu as envie d'expérimenter cette puissance, l'Esprit Saint? Je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce que tu t'es déjà dit, ce serait tellement plus simple si de nos jours, Dieu faisait les mêmes miracles que ceux qu'il a fait au début de l'Église primitive, quand le Saint-Esprit était là? Parce qu'en fait, l'un des premiers miracles qu'il fait, c'est de prendre un groupe qui est centré sur lui-même, qui est centré sur ses propres intérêts, vous vous rappelez dans l'histoire, qui a ses préoccupations nationales, ethniques, culturelles, et moi, et moi, et moi, en fait, et il les transforme en profondeur pour leur dire « allez vers l'extérieur ». Aimez vos prochains, prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est le premier message et le premier miracle qu'accomplit le Saint-Esprit au sein de l'Église. Le premier miracle. Alors, est-ce qu'on veut voir des miracles encore aujourd'hui? Oui, excellent. Et si on commençait par nous? Si on commençait par se convertir vraiment, par se repentir, par se laisser transformer par cet Esprit et marcher à sa suite comme disciple de Jésus-Christ? Alors, il y en a peut-être qui vont dire, en fait, non, les miracles, tu sais, Élisée, je pensais plutôt, tu sais, à ceux où c'est Dieu qui agit. En fait, moi, j'ai pas ma part à jouer. Et si, en fait, ça commençait par nous? Que ton royaume vienne. On veut que Dieu fasse des choses miraculeuses. Et si, en fait, nous, on était son premier miracle? Et je vous invite maintenant à prendre ce temps. Qu'est-ce que je vais... De se poser la question, de se dire... En quoi est-ce que je suis ce premier miracle-là dans ma manière d'être témoin au jour le jour, au quotidien? Comment est-ce que aussi je me laisse transformer par la parole de vie de Christ en nous? Qu'est-ce que je vais faire différemment cette semaine pour manifester cela dans ma vie, sans pression, puisqu'on est juste des témoins, rappelez-vous. et concrètement, comment est-ce que je vais manifester et rayonner comme il nous invite à le faire, être sel et lumière. Je vous invite à la prière pour terminer ce temps. Père Céleste, merci pour ce grand projet du royaume de Dieu que tu as démarré il y a 2000 ans, que tu as inauguré et qui aujourd'hui encore est vivant. Merci parce que tu me donnes la possibilité, tu nous donnes la possibilité de prendre le train en marche, de nous intégrer dans cette démarche-là et à notre petit niveau d'être un témoin du royaume de Dieu. Pardonne-nous Seigneur, toutes les fois où dans l'histoire de l'Église et dans nos vies aussi, on a été des témoins en décalage avec ton message, où on a été des témoins peut-être prétentieux, où on s'est dit que c'est nous qui avions la vérité, mais Seigneur, tu veux continuer à nous transformer par ton évangile, tu veux continuer à nous inspirer par ton esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, Seigneur, pour que nous puissions être ces témoins qui rayonnent ici et au-delà. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour ton aide, pour ton soutien. En ton nom. Amen.